journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Les prisons vont-elles devenir des clusters géants? Omicron pourrait faire des ravages en détention avec des cellules surpeuplées. Impossible d'isoler les détenus malades. Plus d'une centaine de contaminations Covid au centre pénitentiaire de Perpignan ces derniers jours. Témoignage dans un instant. Face à la flambée épidémique, l'exécutif mise sur deux piliers. D'abord les dépistages, les autotests arrivent en grande surface, mode d'emploi dans ce journal. Et le vaccin, l'Assemblée nationale entame aujourd'hui les discussions autour du pass vaccinal. Les sportifs professionnels seront concernés et vous l'entendrez, certains non vaccinés sont prêts à renoncer à leur carrière. La stratégie anti-Omicron, on en parle aussi à 7h50, Christelle.
Oui, comment les entreprises s'adaptent-elles au micro de Yael Gauss dans 20 minutes, Jean-Baptiste Lemoine, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger, de la francophonie et aussi des petites et moyennes entreprises.
Dans ce journal aussi, une première en plus de 10 ans au Proche-Orient, le président palestinien en Israël pour y rencontrer le ministre de la Défense. Et puis l'étonnant succès de l'œuf maillot sur les plateformes de livraison de repas.
France Inter. Il est soumis à un isolement extrêmement strict dans sa prison de Fleury-Mérogis.
Et pourtant, Salah Abdeslam a contracté le Covid. On l'a appris hier soir alors que le procès du 13 novembre doit reprendre mardi prochain. Les prisons n'échappent pas à cette flambée épidémique ces derniers jours. Près de 400 détenus testés positifs au niveau national selon le dernier bilan du ministère. Et déjà, un gros foyer de contamination au centre pénitentiaire de Perpignan. 84 détenus et 15 surveillants concernés. Et avec des cellules surpeuplées, très difficile, voire impossible de confiner les malades, Mathilde Vinceneuve.
Au centre pénitentiaire de Perpignan, le bâtiment qui accueille les courtes peines et les détenus en attente de jugement compte deux fois plus de prisonniers que de places. Alors pour isoler les malades, c'est un casse-tête. Pierre Grosset, le représentant local du syndicat UFAB Justice.
Il y a 72 cellules où il y a trois détenus qui sont dans 9 mètres carrés. Donc évidemment, quand il y en a un qui l'attrape, ben automatiquement, les autres sont qu'en contact et généralement, ils attrapent aussi le virus. On a continué malheureusement à écrouer. Et donc, c'est qu'entre les arrivants, les cas contacts, il est covidé, c'est très compliqué.
Autre établissement surveillé, Toulouse, avec une vingtaine de cas. Plus au nord, le responsable du secteur Grand Ouest du même syndicat a eu des remontées d'une trentaine de prisons pour des clusters. Yann Hervé craint des tensions quand les promenades et les visites au parloir doivent être suspendues.
C'est l'enfermement dans l'enfermement. Ils n'ont plus de défouloir. Il y a une certaine frustration et forcément la frustration... Elle se répercute sur la première personne qui va ouvrir la porte. En l'occurrence, c'est les personnels pénitentiaires.
L'administration pénitentiaire se dit extrêmement prudente, mais elle tient à relativiser les contaminations. 370 cas positifs sur 70 000 détenus au total.
Mathilde Vinceneuve, nouveau record de contamination hier en France. Près de 180 000 cas en 24 heures. Et l'OMS qui alerte ce matin. Même s'il est un peu moins grave, Omicron présente bien un risque très élevé avec un double des cas tous les deux ou trois jours. La ruée sur les tests devrait donc se poursuivre dans ce contexte, avant le réveillon du 31 notamment. Contrairement à Noël, le gouvernement espère éviter cette fois la pénurie d'autotests. Les grandes surfaces peuvent désormais en vendre aux côtés des pharmacies. Les premières boîtes doivent arriver aujourd'hui en rayon. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Alors concrètement Sophie, comment doit-on les utiliser ces autotests?
Il faut avoir une trentaine de minutes devant soi pour réaliser ce test. Avant de prélever, on commence par lire la notice, généralement bien rédigée, agrémentée de schémas. Si elle est en langue étrangère, le test n'est pas conforme à une vente sur le territoire français. En suivant pas à pas le mode d'emploi, ce test ne présente aucune difficulté. Pour prélever le mucus présent dans le nez, il faut introduire un petit écouvillon bien plus court que celui des tests réalisés en pharmacie ou en laboratoire. Il doit être tourné plusieurs fois dans les narines pour garantir la qualité du prélèvement, puis être mis en contact avec le réactif. Après quelques minutes, le résultat apparaît sous la forme de barrettes colorées. Moins invasifs que les tests nasopharyngés, ces autotests sont valables pour tous les âges, selon la Haute Autorité de Santé.
Des autotests en supermarché, aux grandes dames des pharmaciens qui estiment leur expertise essentielle pour la réalisation de ce test. Est-ce qu'il faut se faire aider, Sophie?
Franchement, quel intérêt d'acheter un autotest si on a besoin du pharmacien pour le réaliser? Dans ce cas, autant pratiquer un antigénique classique dans une officine. Aujourd'hui, 35 références, dont 5 françaises, ont reçu l'aval de la HAS. L'instance les recommande depuis avril en milieu scolaire ou universitaire pour casser les chaînes de contamination. C'est, dit-elle, un bon complément de dépistage rapide. En ce moment, où une vaccination peut masquer une contamination en l'absence de symptômes, ces autotests ont l'avantage de rassurer. S'ils s'avèrent positifs, il est recommandé de faire dans la foulée un test PCR en laboratoire. Pour le suivi de l'épidémie ou le pass sanitaire, ces autotests sont en revanche sans intérêt car le résultat n'est pas enregistré dans la base nationale SIDEP.
Les conseils de Sophie Becherel. Merci Sophie. Et concernant les tests antigéniques, l'avertissement ce matin des autorités sanitaires américaines, ils sont un peu moins sensibles à Omicron qu'aux variants précédents. En clair, il risque d'y avoir davantage de faux négatifs qu'avec Delta. L'agence américaine du médicament conseille donc d'insister en cas de symptômes avec un PCR.
L'autre pilier de la stratégie anti-Omicron, c'est le vaccin.
Et pour convaincre les derniers réticents, le gouvernement compte sur l'entrée en vigueur du pass vaccinal dès la mi-janvier. D'ici là, le dispositif va devoir passer sous les fourches codines du débat parlementaire. Le projet de loi débarque aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Un pass vaccinal à la place du pass sanitaire pour aller au restaurant, voyager en train, mais aussi entrer dans un stade. Aucune dérogation possible, prévient déjà le ministère des Sports. Alors que se passera-t-il pour les quelques athlètes non vaccinés? Certains se disent prêts à renoncer, à suspendre leur carrière, comme ce rugbyman de Fédéral 2 qui a souhaité rester anonyme.
Honnêtement, oui, je ne veux pas me sentir obligé de me vacciner pour pouvoir jouer au rugby. Premièrement, j'ai un petit peu peur du vaccin, de ce qu'il y a dedans. Et comme je touche du bois, mais j'ai pas encore attrapé le Covid. Donc ouais, je suis prêt à arrêter le rugby s'il nous oblige à nous vacciner. Ça me laisse des regrets, mais bon, après c'est sûr que ça peut me porter préjudice parce que on est quand même des joueurs sous contrat, on a quand même des obligations, mais on est rémunéré. Mais le coach nous a envoyé un message dans le groupe des joueurs et nous a fait comprendre que les joueurs non vaccinés ne joueront pas.
Un témoignage anonyme recueilli par Fanny Lechevestrier.
Pas encore candidate, mais de plus en plus présente.
Dans une tribune publiée ce matin sur le site du Monde, Christiane Taubira appelle une nouvelle fois au rassemblement de la gauche pour la présidentielle. Les convergences ne manquent pas entre les forces de gauche, dit-elle, même avec des nuances. Elles sont suffisantes pour gouverner ensemble pendant 5 ans. L'ancienne garde des Sceaux a promis de prendre sa décision d'ici 15 jours, mais déjà elle met sur pied un dispositif et une équipe de campagne. Pour cela, Antoine Gignot, Christiane Taubira s'appuie sur des structures existantes, comme le collectif citoyen Taubira pour 2022, créé l'an dernier.
65 comités locaux, 4500 militants un peu partout en France. Le collectif Taubira pour 2022 n'est pas officiellement rattaché à l'équipe de campagne de l'ancienne ministre, mais il agrège des élus et des partisans de tous horizons politiques. Parmi les derniers arrivés, les jeunes radicaux de gauche ont rejoint le mouvement dimanche soir. Ils comptent s'impliquer dans la campagne. Première journée nationale de mobilisation prévue le 8 janvier avec des distributions de tracts, mais pas de gros budget, explique l'une des organisatrices. Il faut, dit-elle, qu'on fasse attention. Les dépenses seront sans doute comptabilisées dans les comptes de campagne une fois que Christiane Taubira sera entrée dans la course à l'Élysée. Une déclaration pleine de certitude que confirme l'entourage de la presque candidate. Une trentaine de personnes travaillent désormais à temps plein sur le projet, la communication, l'organisation. Près de 200 participent à des groupes de travail et une cellule de riposte internet est déjà en place avec deux missions, répondre à l'extrême droite et aux fausses informations autour de Christiane Taubira et de l'épidémie de Covid.
Antoine Gignot, c'est une première depuis 11 ans au Proche-Orient. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'est rendu hier soir en Israël pour y rencontrer le ministre israélien de la Défense. 2h30 d'échange sur la sécurité avec Benny Gantz. Colère de l'opposition de droite sur place. Michel Paul est à Jérusalem.
La rencontre a eu lieu au domicile du ministre israélien de la Défense dans la ville de Rosh Ha'in, à l'est de Tel Aviv, et elle s'est déroulée en partie en tête-à-tête. L'entretien a porté sur des questions de sécurité et également sur des affaires civiles, indique-t-on, selon une source palestinienne, l'importance de la création d'un horizon politique a été avancée par l'entourage du président palestinien. Côté israélien, on indique que Benny Gantz a demandé à son interlocuteur d'œuvrer pour mettre fin à la vague d'attentats anti-israéliens en Cisjordanie et les Palestiniens ont eux réclamé à Israël de réprimer la violence des colons à leur égard. C'est la première visite de Mahmoud Abbas en Israël depuis 11 ans, si l'on ne tient pas compte de sa participation aux obsèques du président Shimon Peres. Le Likoud, le principal parti d'opposition en Israël, a vivement critiqué cette rencontre. Le gouvernement Bennett, affirme-t-il, est dangereux pour Israël. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Quand une vieille star de la brasserie parisienne connaît une seconde jeunesse.
L'œuf mayonnaise, c'est peut-être un peu tôt pour vous en parler, quoique. L'œuf mayo, c'est l'entrée traditionnelle de la cuisine de bistrot, servie sur une nappe à carreaux. Vous le pensiez démodé? Eh bien, figurez-vous qu'il fait partie des plats les plus commandés cette année sur Deliveroo, la plateforme de livraison à domicile. Il se hisse au premier rang français et même au cinquième rang mondial grâce à un restaurant parisien, Delphine Evenou.
Au bouillon, l'œuf mayo est une institution, élue champion du monde en 2019. Une réputation qui s'est vérifiée dès le début du partenariat avec Deliveroo il y a 9 mois.
Tout de suite, ça a été une des meilleures ventes.
Daniel Udry, le chef du Bouillon République.
Par jour, on est à peu près sur un volume de 2000 œufs mayonnaise. On a été en tout cas les premiers surpris de voir les volumes traités et puis de voir à quelle position on se trouvait comme ça au niveau mondial.
Un œuf dur et de la mayonnaise, la recette n'est pourtant pas inaccessible aux plus paresseux, mais le chef a un secret.
La seule particularité, entre guillemets, que nous ayons, c'est l'ajout d'un vinaigre tiède pour dissoudre le sel et le poivre à la fin du montage de la mayonnaise.
Et voilà cette entrée désuète de nouveau séduisante.
C'est un hit, c'est un tube.
Damien Stéphan, le porte-parole de Deliveroo France.
Ça jure un peu dans la liste des Deliveroo 100, qui est une liste un peu plus world cuisine, etc. Et donc, il y a ce petit côté village gaulois, tradition française, etc., qui explique aussi certainement son succès. Et c'est la preuve d'ailleurs que des plats de brasserie, de tradition française, etc., peuvent très bien fonctionner sur les applications de livraison, pourvu que ce soit astucieusement mis en avant.
L'œuf mayo du bouillon détrône au classement un cheeseburger, mais attention, le kebab est en embuscade.
Delphine Evenou, et lui, n'est pas prêt d'en manger des œufs mayo. À 75 ans, un Français doit s'élancer aujourd'hui, si tout va bien, du Portugal pour une traversée de l'Atlantique à la rame. Jean-Jacques Savin, militaire retraité, veut devenir ainsi le doyen de cette aventure. Il n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 2 ans, il avait déjà traversé l'océan à bord d'un petit bateau en forme de tonneau. Mm-hmm. Il prévoit cette fois de boucler son exploit en une centaine de jours.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.